Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai retrouvé les joies simples de la bipédie et l'honneur de la station debout. Alors, je ne sais pas qui est-ce que vous applaudissez, moi-même ou vous, en tant qu'espèce humaine, parce que c'est quand même la dignité de l'Homo sapiens. Bon, moi, je ne suis pas à ces échelles de temps considérables, mais plus modestement, dans le temps historique et même aujourd'hui du calendrier, puisque nous sommes le 13 février et que demain, c'est la Saint-Valentin. Demain, c'est le jour de la Saint-Valentin, je serai là de bon matin, jeune et jolie à ta fenêtre, pour être ton amour, to be your Valentine. Hamlet, scène 5, acte 4. La pâle et douce Ophélie vient d'entrer, l'air hagard, les cheveux défaits. Elle avance sur scène, tenant un luth contre son sein. Elle a commencé à chanter devant la cour, fredonnant des airs anciens et des romances. Mais voyons, Ophélie, s'indigne la reine, est-elle folle ou feint-elle de l'être? Et que signifie cela? Votre attention, je vous prie. Ophélie coupe court et poursuit sa chanson. Alors il s'est levé, il s'est vite habillé, il a ouvert la porte. Jeune et jolie, elle est entrée. Le lendemain, la jeune fille était morte. La veille, ce n'est pas la Saint-Valentin, et le lendemain, elle est morte, et ça ne peut plus l'être. Ainsi donc, la Saint-Valentin n'aura pas lieu. On ne verra pas les amoureux se promettre librement l'un à l'autre, car quelque chose s'est déréglé dans l'accomplissement du rite. Et si Ophélie peut se laisser aller sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, comme l'écrit Rimbaud, c'est que déjà, pour Shakespeare, en 1603, on goûte à la mélancolie de la fin du monde. Demain, c'est la Saint-Valentin, et si elle pouvait ne pas avoir lieu, je pense que beaucoup en seraient secrètement soulagés. En exaltant une conception aussi normative et parfois un peu écœurante du couple bourgeois, de l'échange sentimental, cette fête mondialisée profite surtout aux fleuristes, aux imprimeurs de cartes postales et aux marchands de chocolat. C'est le cas, en effet, depuis la seconde moitié du XXe siècle, aux États-Unis, mais aussi en Europe et au Japon. Or, les travaux de la sociologue américaine Harley Russell Hochschild sur les règles des sentiments et sur ce qu'elle appelle le management des cœurs sont, de ce point de vue, à mon sens, trop peu connus en France, et notamment des historiennes et des historiens des émotions. Ces travaux, pourtant, permettent de comprendre combien ces injonctions sentimentales, de plus en plus appuyées, par la publicité notamment, agissent comme des rappels à l'ordre du genre ou de la supériorité sociale. Cette injonction morale à se conformer rituellement à l'expression obligée des sentiments renchérit le coût intime de ce qu'Harley Russell Hochschild appelle le travail émotionnel, c'est-à-dire l'effort qui consiste à endosser le rôle qu'exigent les situations, par exemple être heureux dans un mariage. Or, les études récentes montrent que beaucoup parmi les jeunes refusent désormais de payer le prix de ce travail émotionnel, en particulier lorsqu'il s'agit d'exprimer des sentiments amoureux. Les biais de genre et les écarts sociaux s'accentuent encore pour exprimer une vraie réticence, notamment chez les garçons des milieux populaires. « L'amour, c'est nul, c'est un truc pour les filles », déclarait un jeune garçon le jour de la Saint-Valentin au sociologue Kevin Dieter, qui a enquêté sur l'intériorisation des sentiments affectifs et amoureux chez les préadolescents. Mais ce n'est pas de cette Saint-Valentin dont je parlerai aujourd'hui, je parlerai de ce monde ancien dont Shakespeare déjà prophétisait le dérèglement. Ce monde où, dans les sociétés traditionnelles, le 14 février, on fêtait les valentinages, c'est-à-dire des choix amoureux, éphémères, librement consentis, qui n'engageaient pas pleinement ou pas définitivement celles et ceux qui se prêtaient au jeu. Sans doute y avait-il d'ailleurs plusieurs manières de le jouer. Les jeunes hommes pouvaient prendre pour Valentine la première fille qu'ils croisaient en sortant de chez eux, ou alors la veille, les groupes de filles et de garçons séparés d'un même village tiraient au sort, par des billets écrits, l'appariement pour un jour ou pour un an des Valentines et des Valentins. On appelle aussi ce rituel le donnage, et ces jeux de l'amour et du hasard ne prétendaient nullement remettre en cause les rigueurs de l'ordre matrimonial, peut-être même les rendaient-elles plus supportables par un renversement carnavalesque, grisant, mais sans conséquence, ce que les anthropologues appellent une transgression licite de la licéité d'un ordre établi. Dans ces romans ruraux écrits à la fin du XIXe siècle, au moment même d'ailleurs où s'institutionnalise la recherche folklorique, l'écrivain anglais Thomas Hardy a décrit ces valentinages de « Under the Greenwood Tree » en 1872 à « Jude l'Obscur » en 1895. Il les saisit non pas comme des survivances ou des lambeaux de traditions disloquées, mais comme des rites qui sont pleinement cohérents et qui sont pleinement cohérents, efficaces sur le plan social, à mesure que de la distance que chacun ménage avec son propre rôle, en une sorte de négligence lassée dans l'exécution du rite, pour reprendre l'expression de Roger Chartier. Roger Chartier, rendant compte alors de l'analyse des intrigues rurales de Thomas Hardy par l'ethnologue, la grande ethnologue Yvonne Verdier, dans un livre magnifique, mais inachevé, publié de manière posthume en 1995 sous le titre « Coutume et destin ». Yvonne Verdier y montrait comment les jeunes, de la Saint-Valentin au feu de la Saint-Jean, en passant évidemment par tous les rituels de mai, se font la cour, selon des modalités réglées qu'on prétend ancestrales, et comment ces coutumes destinent. Entendez qu'elles inscrivent des vies singulières dans des continuités marquées par les rythmes calendaires qui leur donnent l'illusion de poursuivre des vies antérieures qui rendent, je la cite, les vicissitudes de la vie indifférentes, ces désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. C'est que les amours paysannes sont évidemment contraintes par une série d'empêchements, dont les plus codifiés sont les interdits canoniques sur la parenté depuis le XIIe siècle, que complique l'étroitesse des horizons géographiques. Cette dernière rendait, on le sait, tout mariage potentiellement endogamique. Car comment éviter les 7 degrés de consanguinité dans des sociétés rurales aux horizons étroites. Au point d'ailleurs que les historiens se sont tôt demandé si cette rigueur des interdits inapplicables, apparemment incohérente avec l'exigence de la liberté du mariage, qui est sans cesse rappelée par les canonistes, puisque pour qu'il y ait sacrement, il faut effectivement que ce soit un contrat librement consenti, si donc cette apparente incohérence ne permettait pas d'abord un jeu social assez subtil sur la négociation des dispenses que l'on accordait. Car il faut rappeler que les exemptions, que les immunités forment au Moyen-Âge la trame politique d'une gouvernementalité de l'exception. Donc un jeu social sur l'hétérogénéité des normes qui pouvait, en matière d'empêchement de parenté, s'appuyer sur une jurisprudence, par exemple celle du jésuite andalou Thomas Sanchez, confesseur et théologien, dont le De Sancto Matrimoni Sacramento, imprimé à Gênes en 1602, fit longtemps autorité. Dans son livre classique paru en 1975 sous le titre « Amour paysanne, 16e-19e siècle », Jean-Louis Flandrin évoque l'histoire de ces dispenses romaines qui admettent quelques causes honnêtes pour assouplir les interdits de parenté. L'âge de la fille à marier, si elle a plus de 25 ans, donc si elle rentre dans la zone dangereuse, alors il faut être indulgent. le péril de sa vie, par exemple, si elle demeure en bord de mer, en un lieu exposé aux attaques des pirates, hein, faut y penser à ça. Eh bien, il y a des jésuites pour ça, dispense honorable, l'établissement d'une alliance, d'une paix, et bien entendu, la petitesse du pays, qui demeure la première des causes honnêtes de dispense. Mais invoquer les folles amours d'un mariage d'inclination ne peut être un argument devant les tribunaux ecclésiastiques. Alors, bien entendu, les parents se rendent coupables s'ils n'en tiennent pas compte. Et l'on a longtemps voulu croire, sur la foi de quelques témoignages, et notamment des propos rustiques du juriste et conteur breton Noël Dufail en 1547, on a longtemps voulu croire donc à une liberté des plus humbles, puisque, au fond, ils n'avaient pas les moyens économiques de développer par le mariage des alliances fructueuses, au moins pouvaient-ils s'aimer comme ils s'entendaient. Comme ils l'entendaient. Mais c'est compté, évidemment, sans l'inculcation des normes et l'aggravation des situations de dépendance en situation d'insécurité économique. Pierre Bourdieu a décrit dans ses premiers travaux ethnologiques cette tenaille existentielle dans laquelle sont, par exemple, les paysans du Béarn à la fin des années 50, au moment où ils mènent l'enquête. Les cadets, ils sont de fait condamnés au célibat, plus de 80%. On les voit lors des bals de village formant une masse sombre comme, je cite Bourdieu, comme happés par la tentation d'entrer dans la danse, mais ils ne le peuvent pas. Ils n'entrent pas dans la danse. Ils n'entreront jamais dans la danse. Ils demeurent empruntés. Ils sont là, tous des célibataires. Quant aux jeunes filles, elles sont promptes à juger de leurs prétendants selon les normes admises par la communauté. Ainsi, de ces jeunes hommes de la ville venus faire le monsieur en leur chantant fleurette, « Veux-tu, belle bergère, me donner ton amour ?» Alors, lui répond-elle dans une chanson populaire recueillie en 1959, « Eyou moussou kon de vous, et moi, monsieur, je me fous de vous. » Alors, on peut pratiquer effectivement l'histoire des mentalités par des formes régressives d'ethno-histoire à partir des affleurements du folklore dans les sociétés traditionnelles. On peut le faire aussi par l'analyse des sources judiciaires qui seraient susceptibles d'éclairer les façons de sentir et de penser d'un monde que nous avons perdu. Mais cette histoire des mentalités, telle qu'on la pratiquait encore dans les années 80 et 90, elle a longtemps pris ses distances avec la version, on va dire, doucereuse des amours rustiques que véhiculent les bergeries littéraires de l'Astrée et autres pastourelles. Mais alors, pourquoi dans le Béarn, dans les années 50, on dit encore « bergère » et pourquoi d'ailleurs dit-on « faire la cour » ? Est-ce que ça a à voir avec l'amour courtois ou avec la noblesse des sentiments dont on parle depuis quelques semaines ? Il n'est pas exclu qu'ait pu exister ce que Jean-Louis Flandrin, précisément, a appelé une « courtisation au chant », c'est-à-dire la tradition d'aller faire la cour aux bergères en allant leur chanter quelques poèmes anciens. Ainsi, dans les monts du Forêt, au pays de l'Astrée d'ailleurs, où l'on mettait en loterie des michons, ces petits pins, que des groupes de jeunes gens menaient ensuite dans les bruyères pour aller danser pieds nus avec les filles. D'autres rituels, mobilisant également des collectifs masculins et féminins, peuvent mobiliser d'autres espaces, comme la foire, ou d'autres moments, comme la veillée. Bon, la veillée qui est, c'est vrai, propice au flirt des plus jeunes, où l'on se caresse au moins avec les mots. Voilà. Où il y a effectivement cette permissivité littéraire. Là encore, en telles assemblées, beaucoup d'honnêtes familiarités sont possibles, écrit Noël Dufail, même si l'on sait que ces badinages se faisaient toujours sous le contrôle des matrones. Ainsi sont également attestés dans les sociétés traditionnelles d'Europe occidentale, en France, en Suisse romande, en Allemagne, mais aussi en Scandinavie, et ce, depuis le XVIIIe siècle, les pratiques des visites nocturnes, c'est-à-dire des moments où des troupes de jeunes laboureurs ou de bouviers viennent jusqu'à la porte des chambres des filles fredonner des airs mélancoliques en patois. Un témoin note en 1805, dans le pays de Montbéliard, « Le sujet de leurs chansons est le plus souvent la guerre et l'amour, le rossignol qui chante et aime comme eux, la lune qui les guide, le chien qui aboie et les charmes de leur maîtresse. » Et notre folkloriste d'ajouter, il s'agit de Charles-François Philibert Masson, dans un plaisant ouvrage intitulé « La nouvelle Astrée ou les aventures romantiques du temps passé ». La jeune villageoise attend le samedi ses amoureux et veille auprès du foyer. Si elle est couchée, elle se relève pour les recevoir ou les introduit auprès d'elle. Celui qu'elle favorise passe la nuit sur le même lit. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il est rare que ces familiarités aient des suites qui fassent tort à la réputation de la belle. Alors, se paye-t-on de mots quand on prête foi à ces badinages rustiques qui semblent rejouer, sur le mode champêtre, la delectatio morosa, dont on a vu qu'elle est au cœur de la noblesse des sentiments, pour l'aristocratie de la prière comme pour l'aristocratie de la guerre, donc pour les moines comme pour les chevaliers, cet art raffiné de se délecter d'un désir sans cesse différé. Où ne doit-on pas, où doit-on au contraire concéder au peuple uniquement les élans bestiaux du plaisir immédiat, cette pulsion pornographique dont les fabliaux documentent la drôlerie et l'irrépressible attirance. En réalité, ce qu'il nous faut voir aujourd'hui et dans les semaines qui viendront, c'est la porosité de ces mondes. Et c'est, au fond, la puissance de la littérature pour nous désigner non seulement des modes de représentation de l'amour, mais peut-être documenter ses pratiques. Dans son livre paru dans sa traduction française en 1988 sous le titre « Pour sauver sa vie, les récits de pardon au XVIe siècle », Nathalie Zemon Davis, immense historienne qui malheureusement nous a quittés il y a peu, a inscrit le spectacle des émotions populaires dans une réflexion plus générale sur ce qu'elle a appelé une aptitude à raconter, et ce rapport entre l'art du récit et l'art de gouverner et l'art d'aimer. Son enquête, c'est une plongée dans le monde des lettres de rémission, où le suppliant, pour se faire pardonner quelque chose, pour se faire pardonner d'avoir cédé à une colère, à l'indignation, veut faire partager à son lecteur la situation émotionnelle dans laquelle il est. Et les femmes n'écrivent pas la même chose que les hommes. Un jour, par exemple, Vidal Bayonne a jeté des pierres sur la maîtresse de son paysan de mari, Catherine Bonamante, et si elle obtient une lettre de rémission en 1524, c'est en invoquant la force de jalousie, ce qu'un mari bafoué n'aurait jamais fait. C'est même honteux de se faire traiter de jaloux. Rabelais le dit dans le tiers livre, mais on lit aussi dans les lettres de rémission qu'un chirurgien de village nommé Claude Bouture tua son épouse parce qu'elle l'avait traité de jaloux. Non, lorsqu'ils veulent obtenir rémission de leur emportement criminel, les hommes vont manifester, vont invoquer l'honneur, l'obéissance, jamais la jalousie. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans les deux cas, il y a, c'est ce que montre merveilleusement Nathalie Zemon Davis dans ses lettres de rémission écrites ou dictées plus précisément par des gens du peuple, cette aptitude à inventer qui est, écrit-elle, largement distribuée dans l'ensemble de la société et qui, au fond, donne à entendre aussi, je la cite toujours, cette tolérance de l'ambiguïté et tout ce jeu autour de la vraisemblance que l'on peut lire, par exemple, dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. C'est évidemment avec elle, Marguerite de Navarre, bien entendu, que l'on achèvera ce cours le 2 avril, je l'annonce dès à présent, après, avec celle donc qui donne son nom à cet amphithéâtre et auquel Lucien Febvre a consacré en 1944 ce livre extraordinaire « Amour sacré, amour profane », consacré à cette irritante énigme du XVIe siècle, comment cette femme a pu être en même temps et si intensément mondaine et mystique. Et c'est toute la question d'une certaine manière, qu'on a posée depuis les premières séances sur le trouble dans la charité ou le cantique des cantiques, et qu'on va donc mener jusqu'au XVIe siècle. L'amour comme la guerre, ou comme l'épidémie, se déclare. Toutefois, écrit Roland Barthes, en amour, la déclaration ne porte pas sur l'aveu de l'amour, mais sur la forme, infiniment commentée, de la relation amoureuse. Tel est le sens de la lyrique amoureuse des troubadours. Celui qui aime doit se nommer et doit trouver le nom de l'aimé. C'est cela le trobar qui mène l'amour à se dire, non seulement pour dire l'amour, mais pour dire d'amour. C'est-à-dire que toute érotique est une poétique. Et c'est à ce point de rencontre que réside, j'y reviens, la tradition littéraire de la Saint-Valentin, qui consiste à formuler l'amour, c'est-à-dire à lui trouver sa formule en y scellant son désir, de manière évidemment cryptée, comme dans un cœur resserré. Cette tradition littéraire, elle naît à la cour d'Angleterre, sous le règne de Richard II, dans les deux dernières décennies du XIVe siècle, pour dire, au cœur de l'hiver, la promesse d'un printemps. Les poètes qui participent à ce jeu littéraire de la Saint-Valentin sont les plus grands, Geoffroy Chaucer, l'auteur des Contes de Canterbury, John Gower, John Lydgate, tous font partie de l'entourage de Jean de Gand, le duc de Lancastre, fils du roi Édouard III et oncle du roi Richard II. Mais tous également se reconnaissent un maître en la figure d'un poète de langue française, le Savoyard au ton de grand son. Il miglior fabro, écrit Chaucer, pour parer du prestige de la langue italienne, son admiration pour ce poète savoyard, homme de haut prix et gentil cœur, entendez qu'il se distingue à la fois par la grandeur de son lignage et le génie de son art poétique. Ce chevalier poète, au ton de grand son, probablement né dans les années 1340, donc de la génération de Froissart, d'Eustache Deschamps, de Chaucer lui-même, tous nés au temps de la peste noire, c'est le seigneur du pays de Vaud, c'est Othon III de Grandson, c'est un homme clé du duché de Savoie, et il a largement fréquenté la cour du roi d'Angleterre à Londres. Il meurt de manière très romanesque dans un duel judiciaire à grand spectacle, un des derniers, contre Gérard d'Estavayer, le 7 août 1397, devant le comte Amédée VIII, qui a 13 ans et qui en est effrayé, et cette mort le fait entrer dans la légende chevaleresque. Mais celle-ci, sa légende, était déjà alimentée de son vivant par une œuvre poétique très importante, connue à travers 24 manuscrits aujourd'hui, et dont André Corbellari a donné récemment une remarquable étude. On y trouve essentiellement des ballades, mais aussi des rondeaux, des laids, des virelais, des complaintes. Mais le tiers de cette œuvre est consacré à des valentines, avec notamment la complainte de Saint-Valentin, la ballade de Saint-Valentin, la complainte amoureuse de Saint-Valentin Grandson, le souhait de Saint-Valentin et le songe Saint-Valentin. Que raconte par exemple ce dernier, le songe de Saint-Valentin, 449 vers octosyllabique à rime plate. Il raconte que dans la nuit du 13 au 14 février, le poète rêve d'oiseaux qui se rassemblent dans un jardin pour y former des couples. Chaque Valentin choisit sa Valentine, mais voici qu'un épervier ne se prête pas au jeu, refuse de choisir sa compagne d'un jour, car il aime en secret la plus noble de toutes, inaccessible évidemment, dont le poème laisse deviner le nom en acrostiche de ses premiers vers, Isabelle. Le même nom se lit dans le souhait Saint-Valentin et dans le lait en complainte, en initiale du premier vers des six premières strophes. C'est crypté, donc évidemment, c'est fait pour qu'on s'interroge. Donc, depuis le XIXe siècle, on se dit, qui est cette Isabelle ? L'historien qui a découvert, en fait, Othon de Grandson, qui est suisse, qui est Arthur Piaget, a cru reconnaître Isabeau de Bavière, hein, tant qu'à faire, hein, bon, bien sûr, puis d'autres, Isabelle de Portugal ou Isabelle, la fille d'Édouard III. Alain Carobellari suggère plus modestement Isabelle de Neuchâtel, mais dans tous les cas, peu importe, il s'agit d'une dame lointaine, nommée de manière cryptée, et l'important est que la poésie de Granson dénonce, sur un ton polémique, déjà la perte des valeurs courtoises. Il préfigure, au fond, ce désenchantement mélancolique qui éclatera à plein dans La Belle Dame sans merci, par exemple, d'Alain Chartier. C'est cette poésie en langue française dont Chaucer est grand traducteur, il a notamment traduit le roman de La Rose, qu'il contrefait au sens propre. Un contrefactum, c'est un réemploi d'une musique dans laquelle on met de nouvelles paroles. Son Parlement des oiseaux, premier rondeau composé en langue anglaise, se présente comme un contrefactum. Chaucer y écrit « La musique, je l'assure, fut composée en France, les paroles modifiées comme vous allez l'entendre dans le poème suivant qui me vient à l'esprit. » Or, ce qui lui vient à l'esprit sont des vers en langue anglaise. C'est évidemment déterminant parce que si la cour d'Angleterre est bilingue, la promotion de l'anglais comme langue littéraire est un fait majeur de la politique culturelle de la monarchie au XIVe siècle, comme l'a bien montré Aude Merret. On notera au passage que cette poésie amoureuse évoque son lien avec la musique au moment même où elle s'en sépare. Car à ce moment-là, le dit n'est plus chanté. Il s'adresse aux yeux et non plus aux oreilles. Et la Valentine désigne à la fois l'amoureuse que l'on choisit et l'écrit qui formule cette élection. Chez John Lydgate, par exemple, c'est à la fois l'être aimé, la lettre qui déclare cet amour, le don ou le gage de l'affection, et l'affection elle-même. Cette force de l'écrit règne désormais sans partage, mais flotte encore autour de lui le souvenir des airs légers de ces anciennes fêtes galantes où l'on chantait et où l'on dansait au rythme joyeux des fêtes collectives scandant le calendrier traditionnel de la belle saison. Pourquoi la Saint-Valentin, au fait ? Dans le calendrier romain, le 14 février correspond à la fête de la purification des Lupercales, dont Ovide parle longuement dans ses fastes. C'est donc une célébration déjà archaïque au temps d'Ovide de la fécondité. Le nom du mois de février, d'ailleurs, procède du latin februarius, qui signifie faire des expiations pour se purifier. Alors, évidemment, l'Église carolingienne a interdit ces rites agraires de purification, leur substituant la fête de la purification de la Vierge le 2 février. Mais le problème, c'est que l'historicité de la Saint-Valentin, ou plutôt des Saint-Valentin, il y en aurait au moins trois que la tradition a confondu, trois martyrs donc morts à Rome, cette historicité est trop évanescente et trop incertaine pour recouvrir complètement ce que Philippe Walter a appelé la mémoire du temps, c'est-à-dire celle des rites agraires de déshibernation, marquée notamment par toutes les fêtes de l'ours en février, qui ont longtemps... l'ours a longtemps été, comme vous le savez, Michel Pastoureau l'a dit, le roi des animaux, avant que l'Église n'y mette bon ordre. Et le plus souvent, la fête mobile de Pâques n'arrange rien, puisqu'elle peut faire coïncider, selon les années, le 14 février avec Mardi Gras, comme aujourd'hui, mais aussi avec Carême. Donc, il y a là un moment qui est incertain entre l'hiver et le printemps. Et d'ailleurs, pourquoi chanter le cœur amoureux en temps de guerre ? C'est la guerre de Cent Ans. Et pourquoi fêter le printemps au cœur de l'hiver ? Le refrain de la chanson de Chaucer peut étonner. « Now, welcome, summer, with the sun soft. » Sois bienvenue, été, avec ton doux soleil, vous dissipez les rigueurs de l'hiver, vous écartez des nuits l'obscurité. Alors aujourd'hui, peut-être, avec le réchauffement climatique, on s'en plaint aujourd'hui, il y a des floraisons incongrues dès le 14 février, mais d'ailleurs, justement, cette incongruité s'explique en partie par le retard que le calendrier julien avait pris avec le temps cosmique. Hein. Vous savez que le calendrier julien prévoyait bien d'insérer une journée bissextile tous les 4 ans pour tenir compte du fait que la durée moyenne d'une année solaire s'établit à 365 jours et quart et 6 heures, mais c'est une approximation qui induit un décalage de 12 minutes par an. Bon, et c'est ce décalage que le pape Grégoire XIII a résorbé en 1582, où on passa du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre 1582. Donc, pour comprendre quelque chose quand même à ces rites médiévaux, il faut se souvenir que le 14 février au temps de Chaucer, ça correspond en gros au 23 février aujourd'hui. Donc c'est le moment effectivement où percent les premières fleurs, où les oiseaux s'accouplent, certains comme la grive, la corneille, le perdrix, le héron, le merle et même le glaive hubé, si vous voulez tout savoir, mais il ne s'agit que de prémices. La poésie retrouve sans doute sa vocation saisonnière, celle des premiers troubadours, qui chantaient l'amour naissant comme une reverdie printanière, mais elle se porte en avant de la saison. Elle la précède de peu. Elle est, au fond, attentive à ce que Nathalie Coble, dans son anthologie commentée, publiée en 2016 sous le titre « Drôle de Valentine », appelle joliment cette prophétie silencieuse des objets naturels. Et donc, que la poésie soit un peu en avant du calendrier permet effectivement d'assurer au poète cette fonction de prophète. Tradition anglaise, donc, que celle des Valentines littéraires. Et voilà pourquoi Nathalie Coble en suit la lignée politique jusqu'à Shakespeare et Thomas Hardy, on y revient, mais au-delà, conquérant le Nouveau Monde, Emily Dickinson et les poétesses américaines les plus novatrices, telles Gertrude Stein, Marianne Moore ou Elizabeth Bishop. Mais parce qu'elle est anglaise, elle est en fait franco-anglaise. Et pas seulement parce que ce sont les poètes français les plus anglophiles, comme Verlaine ou Germain Nouveau au XIXe siècle, qui, à leur tour, réintroduisent la tradition des Valentines par leur réinterprétation des fêtes galantes et des rondeaux médiévaux. Et pas seulement non plus parce qu'il y eut une première source française à tout ça, celle, on l'a dit, d'Othon de Granson, où allèrent puiser les poètes de langue anglaise qui faisaient de leur poésie une politique de la langue anglaise. Souvenez-vous de ce que nous disions la semaine dernière avec Martin Rueff, de cette ambivalence de la langue comme organe et comme fonction qui nous met toujours en demeure d'être à la fois dedans et dehors. Non, la poésie valentine est franco-anglaise parce qu'il y eut cet homme qui était en même temps prince et poète, ce passeur paradoxal, ce captif amoureux qui, depuis sa prison en Angleterre, fit traverser la Manche à cette volée d'oiseaux sentimentaux qu'étaient les Valentines. C'est Charles d'Orléans, duc de Valois, fils de Louis Ier, duc d'Orléans, et de Valentine Visconti, Valentine Visconti, duchesse de Milan. Et il est le père du futur Louis XII, et c'est sa Valentine de mère qui justifie pour les Valois leur droit sur le Milanais. Alors, vous connaissez l'histoire, Charles d'Orléans, il a été fait prisonnier après la bataille d'Azincourt, à Londres, pendant 25 ans, quand même. Alors, c'est une prison assez dorée. Hein. Il a été accueilli par la petite fille de Chaucer, Alice, épouse du comte de Suffolk. Et donc, au fond, il est à Londres, à l'école de la poésie anglaise. Donc, il écrit de nombreuses Valentines dans les deux langues. Et 25 ans plus tard, 1440, il retourne à Blois. C'est là où il tient un album poétique de ses amitiés littéraires qui forment une nouvelle cour d'amour, mais qui se teinte de mélancolie, évidemment. Il a quand même perdu une partie de sa vie, une mélancolie qui fait l'immense beauté, aujourd'hui encore, de la poésie de Charles d'Orléans, battu, attristé par pluie, vent et mauvais chemin, comme engourdi par l'air du Black Trombone de Serge Gainsbourg, parce qu'il vient toujours un moment où, au beau soleil de la Saint-Valentin, quand chacun choisit son amour de l'année, je reste seul, triste et alangui dans le dur lit d'ennuyeuses pensées. Ainsi que l'écrit Charles d'Orléans. Chacun de vous est bien apparié, moi mon ami, la mort me l'a ravi, et j'ai sombré dans la mélancolie, dans le dur lit d'ennuyeuses pensées. C'est ce moment-là, ce moment de bascule, cette mélancolie du XIVe siècle dont Shakespeare, dans sa chanson d'Ophélie, eh bien, conserve le souvenir. Charles d'Orléans disait de ses Valentines qu'elles étaient des étrennes et de sa cour d'amour une joyeuse loterie où l'on pouvait laisser au sort le soin de choisir son élu. Parce que ce billet doux, était aussi d'une certaine manière un bulletin de vote qui désignait le vœu, votum, de l'amoureux pour sa Valentine d'élection. Je rappelle que dans le vocabulaire politique de l'Europe latine, électio ne désigne rien d'autre que le choix. Eligere veut dire choisir, sans présupposition de la modalité du choix. Ça ne passe pas nécessairement par une enquête ou un examen ou une recherche, qu'en latin on appelle le scrutinium, c'est-à-dire le scrutin qui est destiné à recueillir le vœu de chacun des individus qui composent la communauté. Donc, il y a là aussi une politique de l'amour qui fait dire au poète amoureux « je te choisis ». Ainsi commencent d'ailleurs tous les vers de la ballade de Saint-Valentin d'Othon de Grandson. « Je vous choisis, noble et fidèle cœur. Je vous choisis, souveraine plaisance. Je vous choisis, gracieuse douceur. Je vous choisis, ma douce accoutumance. Je vous choisis de toute ma puissance. Je vous choisis d'un cœur entier et vrai. Je vous choisis et dis sans défaillance que nul autre jamais ne choisirait. » Le don du cœur se dit ici en pleine puissance. Vous l'avez entendu. Et même si cette puissance rime avec plaisance, vous l'avez également entendu, même si celle-ci est dite souveraine, parce que c'est bien une scène toute politique d'élection amoureuse à laquelle nous sommes conviés. En politique électorale, aujourd'hui, on dit qu'on donne sa voix. Et le poète, ici, sans doute, au moment de se déclarer, s'identifie à la formule même de son désir, se confond avec ce désir exclusif qui dit « je te choisis, toi seul, à l'exclusion de tous les autres, à l'exclusion de toutes les autres ». Et c'est ce qui fait la véhémence de l'amour, c'est ce qui, effectivement, rend difficile, on l'a vu les semaines dernières, la constitution d'un ordre social sur un lien qui est aussi injustement exclusif. Mais choisir signifie aussi en moyen français regarder. Et c'est alors une fois de plus affaire de regard. Là encore, je récapitule tout ce qu'on a dit. Dire « je te choisis » revient à dire « je te vois, je suis pris, je me rends, je suis captif ». Je suis captif de ce désir qui a fait de mes yeux et de mon cœur une cible, puisque voir, c'est recevoir, en fait, les rayons que darde l'œil de l'autre. Et au fond, je consens à cet assujettissement. Ainsi, Valentine peut-il aisément rimer, ainsi, valentiner, comme on dit cupidonner, valentiner peut aisément rimer avec destinée. Et chez Lydgate, où le cœur et le corps doivent obéir, ou chez John Gower, par exemple. Dès lors, la politique pointe sous la poétique, puisque, comme l'écrit Christine de Pizan dans l'une de ses ballades, le sentiment qui est le plus léger et qui conquiert le mieux les gens, c'est l'amour. Mais, encore une fois, prenons au sérieux ce thème de la conquête amoureuse. Nous avons vu qu'on ne se contentait pas de désigner là l'articulation entre l'articulation courtoise entre la guerre et l'amour, mais le lien serré entre toute forme de dilection et le gouvernement des âmes et des corps. Caro et spiritus, lien d'autant plus fort qu'il est léger, ce lien léger qui conquiert le mieux les gens. Ça veut dire qu'on gouvernera avec ça. Alors, quelle pourrait être, par exemple, une lecture politique, j'y reviens, du Parlement des oiseaux, le Parliament of Fowls de Chaucer, qui admettait que ce, si on veut bien admettre que ce Parlement est vraiment un Parlement. Le poème qui a été transmis par 14 manuscrits a vraisemblablement été composé entre 1373 et 1385. On ne peut pas en dire davantage, mais déjà ça situe l'œuvre au moment crucial de l'affirmation des communes au sein du Parlement anglais, à la faveur des crises politiques de la fin du règne d'Édouard III. C'est en 1376 que le bon Parlement, the good Parliament, établit les deux institutions sur lesquelles repose aujourd'hui encore le contrôle parlementaire de la monarchie anglaise, la fonction du speaker et la procédure de l'impeachment. Il y a donc un effet de contexte qui doit nous alerter. Mais ce qui peut également politiser notre regard, ou l'aiguiser politiquement, c'est la situation d'énonciation du poème. C'est un songe. Mais c'est un songe au carré, si je puis dire. Le narrateur s'endort alors qu'il était en train de lire le commentaire au songe de Scipion, dans lequel Macrobe, au 5e siècle, glose le 6e livre du De Republica de Cicéron en un sens néo-platonicien. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, on peut s'endormir sur ce genre de livre politique. Comment on le lit d'ailleurs au Moyen-Âge ? D'abord comme une introduction latine au néo-platonisme. Et une réflexion, ce qui peut quand même nous intéresser aujourd'hui malgré tout, et nous réveiller, si j'ose dire, sur la possibilité même d'un espoir politique, dès lors qu'on renonce aux grandeurs impériales, des dominations éternelles, telles qu'elles perdurent dans le républicanisme. Mais on lit également Macrobe pour sa typologie des catégories du rêve, qui a grandement influencé la théorie onirique médiévale. Macrobe dit qu'il y a toute une série de songes insignifiants qui nous viennent des préoccupations de la veille, insomnium, des états de semi-conscience dans lesquels le corps nous plonge au moment justement de sombrer et fait naître des images hypnagogiques incohérentes, visum. Mais il y a aussi les rêves symboliques, somnium, oraculaires, oraculum, ou les plus élevés des visions, visio. Les interprétations médiévales de Macrobe classent les deux premiers du côté du corps. Bon, c'est la chair qui tremble, même si le diable peut s'immiscer dans ses fatigues, dans ses béances, là où bâille la conscience, ouvrant la voie aux cauchemars et aux rêves érotiques, donc on doit faire gaffe. Mais c'est surtout aux trois suivants qu'il s'agit de porter toute notre attention, car ils sont porteurs d'une vérité qui nous est envoyée par Dieu. Soit à travers le motif de l'apparition en songe des anges ou des défunts, oraculum, soit par cette vision poétisée qui appelle l'interprétation, somnium. Et c'est pourquoi une bonne partie de la littérature politique de la fin du Moyen-Âge, et notamment cette littérature du réveil qui appelle à un sursaut de la conscience politique et que j'avais introduit dès la première séance, s'énonce sous la forme du rêve. J'ai fait un rêve. I have a dream. Pour ne parler que du domaine français, ressortent de ce genre le songe du verger, composé anonymement entre 1376 et 1378, attribué aujourd'hui à Évrard de Trémogon, le songe de pestilence, 1379, également anonyme, maintenant attribué à Henri de Ferrières, le songe du vieux pèlerin de Philippe de Mézières, 1389, donc tout ça est quand même très resserré, et la vision Christine de Pisan en 1405. Dans chacun de ces textes, le narrateur s'endort dans un lieu clos, un jardin, un verger le plus souvent, est traversé par une vision qu'il raconte en se réveillant, et dont surtout il tire la leçon. Et la mise en songe du récit se dit d'une formule « Il me fut avis que je vois ». Il me fut avis que je vois. Comme l'a montré Christiane Marchelonisia, cette fiction cadre reprend évidemment celle du rêve amoureux, notamment du roman de La Rose, sauf que dans le songe politique, le rêveur n'est pas concerné par la vision. Il n'en est même pas le dédicataire, qui est généralement un « vous » souverain, qui est celui du roi. Donc, le rêveur, c'est une porte, c'est un passage. Il est là où passe le songe. Il est son scripteur, mais non son inventeur. Et c'est à ça, évidemment, que sert ce brouillage de l'instance énonciative, c'est-à-dire à masquer cette transgression qui fait que quelqu'un qui n'est pas le roi est le siège d'un rêve royal et devient le détenteur provisoire d'une connaissance politique révélée et de ce fait usurpe une fonction royale. Voilà pourquoi l'anonymat de ces textes n'est pas accidentel. Il entretient un mystère autour de ce « je » qui s'absente, à l'opposé du « je » cérémoniel des historiens. Si les historiens disent « je Jean Froissart, trésorier et chanoine de Chimère », c'est parce que l'histoire instaure sa leçon politique, non pas sur une vision ou sur une révélation, mais sur l'expérience et l'analyse des événements eux-mêmes, au XIVe siècle déjà. Revenons donc à notre dormeur du Parlement des oiseaux de Geoffrey Chaucer. Il s'endort sur un livre politique, le commentaire au songe de Scipion de Macrobe, et de quoi rêve-t-il ? De Scipion l'Africain. Mais Scipion l'Africain le conduit dans un jardin merveilleux où sont les allégories de nature, de plaisance, de plaisir, de courtoisie, de noblesse, d'amour. Donc le rêve politique procède du rêve amoureux et y revient pour éveiller notre conscience et l'éveiller érotiquement pour lui mettre la puce à l'oreille. Car c'est le jour de la Saint-Valentin et nature s'apprête à recevoir les oiseaux en audience selon leurs états. Alors, il y a différents types d'oiseaux. Il y a les oiseaux de proie, il y a les oiseaux à graines, il y a les oiseaux à vers, il y a les oiseaux d'eau. L'historien Paul Olson propose d'y voir les différents états de la société politique. Et en tout cas, c'est toujours la même chose, c'est chez les nobles que ça, qu'il y a du grabuge. Un conflit éclate entre les oiseaux de proie, les plus nobles se disputant la plus belle des aigles. Et c'est cette compétition nobiliaire qui crée la cacophonie. Je cite, « L'oie, le coucou et aussi le canard crièrent ainsi kek kek, coucou, quac quac ». Nature tente de rétablir l'harmonie en demandant aux quatre races d'oiseaux de choisir un speaker. Et les oiseaux de proie choisirent d'abord, par une élection ouverte, le jeune faucon. Une délibération peut alors avoir lieu entre les quatre représentants. Nature tranche, ce sera à la belle aigle de décider. Les oiseaux choisissent leur compagne, se séparent en chantant. Ainsi, le Parlement des oiseaux de Chaucer est bien travaillé par cette interrogation fondamentalement politique sur l'autorité, sur le conseil et sur le bien commun. Dès lors, il s'agit de s'interroger sur cette homologie formelle entre courtoisie et gouvernement, qui les formule de même manière. Même si nous ne croyons plus à l'existence des cours d'amour où aurait été édicté l'amour courtois, l'équivoque se maintient comme fiction littéraire, ou même comme fiction politique. Le 14 février 1401, se rassemblèrent, en l'hôtel du duc de Bourgogne à Paris, une cour amoureuse, formée sur le modèle des cours souveraines, avec ses présidents, ses conseillers, ses maîtres de requêtes, ses auditeurs, ses chevaliers, ses secrétaires, ses officiers, ses gens du roi. Son but ? Discourir de sujets amoureux, organiser des concours poétiques pour célébrer du même élan le sexe féminin et la création poétique. La cour amoureuse, qu'on appelle la cour amoureuse de Charles VI, se plaçait donc sous le signe d'humilité et loyauté à l'honneur, louange et recommandation et service de toutes dames et demoiselles. Elle mettait en jeu une compétition masculine autour de la louange des femmes qui ressortait à la fois de la fête chevaleresque, une joute oratoire, du concours poétique, inspiré de ce qu'on appelait les puits d'amour, de la dispute universitaire. On choisit un refrain comme un cas d'amour que l'on soumet à la question, et de la cour souveraine, en forme d'amoureux procès pour différentes opinions soutenues. Les femmes y sont glorifiées, mais comme d'hab, n'y participent pas. Elles en sont les juges à distance. On leur adresse, elles ne sont pas là, des pièces poétiques qu'elles renvoyaient avec leur jugement, mais c'était un jugement formel. Il s'agissait de dénoncer le vice de fausse rime, la redite trop longue ou la trop courte ligne. La cour s'était dotée d'une charte par laquelle les ducs, Louis de Bourbon, Philippe de Bourgogne, priaient le roi de France Charles VI en cette déplaisante et contraire pestilence de épidémie présentement courante, ces très chrétiens royaumes, que pour passer partie du temps plus gracieusement et afin de trouver éveil de nouvelles joies, il lui plut ordonner, créant son royal hôtel, un prince de la cour d'amour seigneurialisant sur les sujets de retenue d'icelle amoureuse cour, l'amour après la peste. Une fois encore, comme dans le prologue du Décaméron de Boccace, pour faire front à la mort qui vient, là en l'occurrence, résurgence de la peste en 1401, on décide non seulement d'user de la fonction consolatrice de la poésie, mais de faire communauté d'une joie courtoise qui se donne à voir dans la communauté des deux visants par le plaisir de se raconter des histoires et par le livre même qui la constitue. Car la cour amoureuse de Charles VI est d'abord cela, un manuscrit qui rassemble les noms et les armoiries de ses 952 membres, hein, quand même, rassemblés autour de Pierre de Hauteville, qui est ce prince de la cour amoureuse et rédacteur de la charte, et de ses différents conservateurs, secrétaires, notaires, huissiers, etc. Édité en trois volumes par Carla Bozzolo et Hélène Loyaux, ce manuscrit, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, vaut d'abord comme répertoire prosopographique. Il dit effectivement, de manière assez éloquente et impressionnante, l'étendue d'une société politique. Mais est-ce davantage qu'un livre ? Les historiens s'interrogent sur le fonctionnement réel de cette prétendue cour souveraine, dont les procédures juridiques étaient minutieusement décrites, y compris lorsqu'il s'agissait de l'enregistrement de toutes ces productions poétiques, donc normalement recopiées dans des registres, mais dont on n'a conservé aucune trace. Cette cour s'est-elle seulement réunie un jour ou ne fut-elle qu'une fiction littéraire ? Et si c'est le cas, pourquoi ces règlements insistent tant sur l'interdiction de diffamer les dames et d'une manière générale de faire dévier la parole des amoureux sujets vers lesquels on veut la cantonner ? C'est sans doute que derrière l'appel un peu énigmatique au consensus de la société politique, le rituel poétique de la Saint-Valentin, au cœur de la guerre, j'y reviens, en exprime surtout les plus fortes tensions, comme le suggère Joël Blanchard dans son livre récent « Poétique de l'amour, sexualité, genre, pouvoir ». Et d'ailleurs, un an après la création de la cour amoureuse de Charles VI, un an précisément, le 14 février 1402, Christine de Pisan compose son « Dit de la rose », écrit le jour Saint-Valentin, où mains amants, très le matin, choisissent amour pour l'année, c'est le droit de cette journée. Et son but, justement, à Christine de Pisan, c'est de donner une place aux femmes qui, enfin, ne soient plus seulement décoratives. Et dans le « Dit de la rose », c'est une cour d'amour qui est située dans l'hôtel du duc d'Orléans, donc ça en fait une réplique orléaniste à l'initiative bourguignonne de la cour amoureuse, parce que 1401, 1402, on est au bord de la guerre civile. C'est de ça dont on parle, entre les Armagnacs et les Bourguignons. Donc évidemment, il y a une histoire de faction aristocratique, mais il y a aussi une histoire mise au net de l'ambition de Christine de Pisan de donner aux femmes, enfin, dans ce monde courtois, un rôle actif. Et là, ce ne sont plus les juges évanescentes et absentes de la cour d'amour de Charles VI, mais dans le dit de la rose de de Christine de Pizan, ce sont elles qui ont, je dirais, toutes les fonctions administratives. Je rappelle quand même que Christine de Pizan, née en 1365 à Venise, qui a suivi son père, astrologue et médecin italien, à la cour de France, où elle vécut jusqu'en 1418, qui a donc été totalement immergée dans ce milieu politique et littéraire qui mêlait pouvoir et poésie. Je rappelle donc que Christine de Pizan, depuis la mort soudaine de son mari Étienne de Cassel, auquel on la maria à 15 ans, Christine de Pizan est, comme elle l'écrit, seulette, veuve à 25 ans, avec des enfants. Et elle devient le premier homme de lettres de l'histoire, au sens où c'est le premier auteur à vivre de sa plume, à composer une œuvre immense, dont elle assure elle-même la vie éditoriale en compilant, dès 1402, différents recueils de ses écrits en « Livres de Christine ». Par ce sort d'exception, elle a donc endossé un rôle masculin. Telle est sa mutation de fortune, qu'elle raconte et théorise en même temps dans ce texte extraordinaire, le livre de mutation de fortune, 1403, où elle montre comment, pour une femme, on peut devenir, je la cite, « patron de sa nef », c'est-à-dire se conduire, se gouverner, c'est-à-dire tenir le gouvernail et engrossir sa voix pour se faire, pour conduire sa vie, pour mener sa barque, dirions-nous, aujourd'hui. Les racines mutes, trans, tresses sont mobilisées pour décrire cette aventure toute politique de la transgression du genre. Mais il convient que vous raconte la moi transmutation qui, par la visitation de fortune, fut remuée de femme en homme très muée. Elle qui fut née fille sans fable, je la cite, née fille sans fable, sans feinte. La voici transformée en homme naturel parfait. Mais elle demeure une mère, mais elle demeure une femme, mais elle demeure une amoureuse, puisque cette politique doit se dire dans le langage de l'amour et qu'elle n'entend pas en parler sans l'éprouver. Dès lors, lorsqu'elle écrit sur l'amour, lorsqu'elle écrit sur elle, elle n'en est pas moins politique. Avec le dit de la rose, Christine intervient dans un débat d'hommes, la querelle du roman de la rose, qui disputait des qualités morales de ce grand roman poétique de l'amour au XIIIe siècle, et en particulier de sa continuation par Jean de Main entre 1275 et 1276 et 1280. De 1400 à 1402, des hommes de pouvoir comme Jean de Montreuil, Gontier Colle, prennent fait et cause pour le roman allégorique, tandis que d'autres, comme Jean Gerson et Christine de Pizan, le critiquent, et ne le critiquent pas d'un jugement formel, comme on attendait que les femmes le fassent dans la cour amoureuse, mais non, mais sur le fond, c'est-à-dire sur la morale et sur la politique. Et c'est Christine de Pizan qui publie les pièces du débat en un recueil qu'elle offre à la reine Isabeau de Bavière. Cet épisode de l'histoire des querelles littéraires est trop connu pour que je le développe ici. Il vaut surtout, on le sait, pour les formes de la controverse dans lesquelles se jouent les conditions de la genèse de l'humanisme français, puisque c'est désormais à la cour qu'on en débat et non plus à l'université. Ce qui est évidemment en soi, la question clé, et ce qui permet à une femme, Christine de Pizan, d'en forcer l'accès. Penser, c'est franchir, c'est trancher, c'est transgresser. Ce qui fait acte de pensée politique, ou plutôt acte politique de pensée, réside précisément dans ce refus de l'assignation à résidence des catégories, des genres, des positions. En 1973, Claude Govard publiait son premier article de recherche dans la revue historique, intitulé « Christine de Pizan a-t-elle eu une pensée politique ?» L'article était pionnier, au point qu'on s'étonne, 50 ans plus tard, qu'on ait pu même se poser la question. Christine de Pizan a-t-elle eu une pensée politique ? Parce que l'autrice de Le Livre de la Cité des Dames et de tant d'autres textes est, ou devrait être aujourd'hui, considérée comme le principal auteur, le plus original, le plus puissant, le plus important de la pensée politique médiévale. Pourquoi ? Mais précisément parce que son expérience personnelle de transfuge l'a obligée à traverser la classification des catégories et à la faire voler en éclats. Nous sommes le 13 février et demain, c'est la Saint-Valentin. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Et puisque j'ai gardé cette habitude scolaire de couper les mystiches, de couper à les mystiches le parcours des 12 leçons, donc 6-6, qui composent cet enseignement, ben nous reprendrons le 27 février sur un autre pied. Les 6 premières séances ont été consacrées à définir la grammaire des langues de l'amour. Les 6 prochaines seront consacrées à en user pour produire un énoncé politique, construit comme un récit qui, du XIIe au XVIe siècle, je l'ai annoncé également, tentera non plus une histoire des pouvoirs de l'amour, mais quelque chose comme une histoire des pouvoirs, je n'ose dire amoureuse, mais en tout cas depuis le lien d'amour. Un lien d'amour tel que nous l'avons défini dans son ambivalence fondamentale entre aimer d'amour et aimer d'amitié, entre le charnel et le spirituel, entre la noblesse des sentiments qui fait de l'art d'aimer un mode de l'art de gouverner et l'universalité du désir qui, à tout moment, vient faire irruption dans ce bel agencement, entre la cour qui veut garder jalousement la domination sociale sur les codes d'aimer et ses manières bien plus partagées de faire la cour dans les sociétés rurales, car, je l'ai dit, on n'ordonne pas sans danger un système de pouvoir par les langages de l'amour. Voilà pourquoi nous y cherchons moins le ciment d'une société politique, encore moins l'identité d'une Europe chrétienne qui se définirait par son invention de l'art d'aimer, mais par ce lien de division, cette stasis, cette fitna qui met en mouvement une société, toute une société, et pas seulement celle des beaux chevaliers et des gentilles dames, car dans celle-ci aussi, la véhémence de l'amour apporte le trouble, et c'est de cela dont nous aurons à parler dans 15 jours. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.